Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Jean-Roger Billon à ce micro, le monde aujourd'hui, au sommaire de cette édition du mercredi 15 mars 2023. En visite en Éthiopie, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken appelle à enraciner la paix au Tigré. Au Sénégal, les autorités confinent l'opposant Ousmane Sonko dans son quartier et le préfet de Dakar interdit une manifestation prévue l'après-midi. Au Niger, l'armée dit avoir tué une trentaine de terroristes ayant fui le Nigeria. Les défenseurs des droits humains continuent de déplorer la détention de 5 activistes au Burundi et parlent d'une répression qui ternit l'image du pays.
Nous avons un pays qui a besoin de partenaires internationaux. Cela va aggraver la situation des populations.
Nous retrouverons dans la partie magazine l'avocat Janvier Bigirimana. Washington appelle Moscou à opérer ses avions militaires de façon sûre après un incident entre des chasseurs russes et un drone américain en mer Noire. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken appelle à enraciner le processus de paix en cours au Tigré, dans le nord de l'Éthiopie. Il a lancé cet appel aujourd'hui à Addis Abeba lors de sa visite, visant notamment à renouer les liens distendus avec ce pays, allié historique de Washington. Les détails avec Nani Talani.
Il y a beaucoup à faire. Le plus important étant probablement d'enraciner la paix qui s'implante dans le nord du pays, a déclaré le chef de la diplomatie américaine, avant un entretien avec son homologue éthiopien, Demeke Mekonnen, également vice-premier ministre. M. Blinken a également souligné l'objectif de renforcer la relation entre les États-Unis et l'Éthiopie, alors que cette dernière a été exclue depuis janvier 2022 en raison du conflit de l'AGOA, initiative américaine exemptant de taxes les exportations de certains pays africains. Nous avons des relations anciennes et il est temps de les raviver et d'avancer, a déclaré pour sa part M. Demeke. M. Blinken a ensuite rencontré le Premier ministre Abiy Ahmed, prix Nobel de la paix, qui, en 2020, a déclaré la guerre aux autorités tigriennes, les accusant d'avoir attaqué des bases militaires. M. Blinken est le plus haut responsable américain à visiter l'Éthiopie depuis le début du conflit, auquel un accord de paix signé en novembre dernier en Afrique du Sud a mis fin. La visite de M. Blinken, qui se rendra ensuite au Niger, intervient également sur fond d'effort du président américain Joe Biden pour contrer les influences croissantes sur le continent africain de la Chine et plus récemment de la Russie.
Dans la foulée de sa visite en Éthiopie, le chef de la diplomatie américaine a annoncé une aide de 331 millions de dollars. Ces fonds vont fournir un soutien vital à ceux touchés et déplacés par le conflit, la sécheresse et l'insécurité alimentaire en Éthiopie, a souligné M. Blinken en visitant un centre logistique de l'ONU à Addis Abeba. Cette somme double presque l'assistance humanitaire américaine à l'Éthiopie pour 2023, l'apportant à 780 millions de dollars selon le département d'État. Deux journalistes sud-soudanais arrêtés en janvier après la diffusion d'une vidéo suggérant que le chef de l'État Salva Kiir urinait sur lui ont été libérés, a déclaré aujourd'hui le président de l'Union des journalistes du Soudan du Sud, exigeant la libération de deux autres confrères. Sept journalistes de la télévision publique avaient été interpellés en janvier. Trois journalistes ont depuis été libérés. Au Mali, c'est une influenceuse qui est retenue par les policiers depuis deux jours à Bamako, après s'en être pris durement aux militaires au pouvoir. Rokia Doumbia, c'est son nom, connu pour son engagement contre la vie chère et très suivi sur les réseaux sociaux, dénonçait ce qu'elle a appelé l'échec des autorités face à l'insécurité et à l'inflation. Lundi, une autre personnalité des médias, l'animateur de radio-télévision Mohamed Youssouf Batili, dit Razbat, a été placé sous mandat de dépôt après avoir déclaré qu'un ex-premier ministre mort en détention il y a un an avait été assassiné. Au Sénégal, le préfet de Dakar a interdit la marche que l'opposition sénégalaise voulait faire aujourd'hui. L'autorité administrative a indiqué que l'itinéraire choisi par l'opposition était en chantier et que la manifestation présentait de réels risques de troubles à l'ordre public. Des troubles qui, justement, ont éclaté malgré l'arrêté d'interdiction. La correspondance à Dakar de Seydina Abagay.
Des dizaines de jeunes font face aux forces de l'ordre suite à l'interdiction de la marche projetée par la coalition d'opposition Yewi Askanwi ce mercredi en début d'après-midi. Ces jeunes, pour la majorité, ont choisi de faire cap sur la cité Kurgurgi, un quartier d'affaires avec une cité résidentielle dans laquelle se trouve le domicile de Ousmane Sonko. Malgré leur détermination, les jeunes n'ont pas eu accès à la maison d'Ousmane Sonko car ce dernier est interdit de mouvement par des centaines d'éléments de la police nationale appuyés par des chars blindés qui bloquent toutes les rues menant à son domicile. Face à cet impressionnant dispositif des forces de défense et de sécurité, les militants d'Ousmane Sonko opposent une farouche résistance en jetant des pierres et en brûlant des pneus. La police et la gendarmerie répliquent quant à elles à coups de grenades lacrymogènes. Certaines d'entre elles ont d'ailleurs touché et blessé des journalistes qui couvraient les événements, comme le rapporte la Convention des jeunes reporters du Sénégal, dont le président appelle au respect du travail des professionnels des médias. Pour rappel, l'opposition, avec à sa tête Ousmane Sonko, a appelé à 72 heures de manifestation à travers le pays. Si hier, la grande mobilisation des opposants a regroupé des milliers de Sénégalais, aujourd'hui, le préfet a très tôt annoncé l'interdiction de la deuxième journée de manifestation, déclenchant ainsi des échauffourées dans certains quartiers de Dakar. Serina Bagay pour VOA Afrique, Dakar.
Une trentaine de terroristes du groupe djihadiste Boko Haram tués au Niger. L'armée a interpellé 960 autres personnes, dont des femmes et des enfants, ayant fui le Nigeria voisin. Les détails avec Alexandrine Ologon.
L'assaut a été donné le 11 mars dernier à la suite d'un mouvement de masse d'individus observés le long de la frontière entre le Niger et le Nigeria. Selon la télévision publique nigérienne Télé Sahel, il s'agissait de membres de Boko Haram venant de la forêt de Sambisa dans le nord-est du Nigeria et se rendant vers les îles nigériennes du lac Tchad pour fuir de violents combats avec leurs rivaux de l'État islamique en Afrique de l'Ouest. L'armée dit avoir lancé une opération après avoir tenté sans succès de négocier une reddition sans effusion de sang. Par la suite, 960 personnes, majoritairement des femmes et des enfants, ont été interpellées entre le 7 mars et le 11 mars et transférées à Difa avant d'être remis aux autorités militaires nigérianes. Les groupes djihadistes Boko Haram et ISWAP ont installé des repères dans le bassin du lac Tchad qui étire ses rives entre le Nigeria, le Niger, le Cameroun et le Tchad. Ces pays ont lancé en juillet 2015 la force multinationale mixte de 8500 hommes pour lutter contre les groupes armés djihadistes.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le ministre américain de la Défense, Lloyd Austin, appelle la Russie à opérer ses avions de façon sûre et professionnelle. Il replace la chute d'un drone américain en mer Noire la veille dans un contexte d'agissement agressif de pilotes russes, Eric Manirakiza.
Cet épisode dangereux intervient dans un contexte d'action agressive risquée et dangereuse de la part de pilotes russes dans l'espace aérien international, affirme Lloyd Austin au début d'une réunion de pays qui soutiennent l'Ukraine dans son combat contre l'invasion russe. Ne vous y trompez pas, les États-Unis continueront de faire voler leurs appareils et d'opérer partout où le droit international le permet, et il incombe à la Russie d'opérer ses aéronefs militaires de façon sûre et professionnelle, a-t-il ajouté. Les États-Unis ont accusé hier mardi l'aviation russe d'avoir intercepté et percuté un drone américain Reaper au-dessus de la mer Noire et provoqué sa chute. Moscou a démenti ces accusations. Le Pentagone utilise des drones Reaper pour conduire à la fois des opérations de surveillance et des frappes et est depuis longtemps actif en mer Noire pour surveiller les forces navales russes.
Des Israéliens opposés à la réforme controversée du système judiciaire voulue par le gouvernement de Benjamin Netanyahou ont manifesté aujourd'hui à l'aéroport de Tel Aviv avant le débat prévu du Premier ministre pour Berlin. Le dirigeant israélien doit arriver dans la capitale allemande en soirée et des protestations sont également prévues jeudi à Berlin, premier jour de sa visite officielle. La France a connu ce mercredi une journée de mobilisation nationale, la 8e contre le projet gouvernemental de réforme des retraites, lequel entre dans la dernière ligne droite de son examen au Parlement avec un vote définitif attendu jeudi qui devrait être très serré. Les syndicats se disent déterminés à combattre la réforme, quelle que soit l'issue des débats au Parlement. Leurs représentants ont prévu de se réunir jeudi devant l'Assemblée nationale lors du vote des députés. La police pakistanaise a renoncé aujourd'hui à arrêter à son domicile de Lahore l'ancien Premier ministre Imran Khan. Ce dernier a crié au complot après de violences violents affrontements entre des policiers et des centaines de partisans durant la nuit. Une ordonnance de la Haute Cour de Lahore a enjoint aujourd'hui à la police de mettre fin à l'opération immédiatement et de se retirer en attendant le résultat d'une audience à Islamabad concernant le mandat d'arrêt contre M. Khan. Voilà pour le journal, vous suivez VOA Afrique. À présent, la minute éco avec Nani Telani.
Au Niger, les millions de tonnes de déchets d'une mine d'uranium font peur car elles sont constituées de millions de tonnes de déchets en partie radioactifs accumulés pendant plus de 40 ans par la mine d'uranium d'Akouta, exploitée près d'Arlit par le groupe français Ex-Arriva. Elle a fermé en 2021 pour cause d'épuisement de ses réserves après avoir produit 75 000 tonnes d'uranium. Ce réaménagement d'un coût de 150 millions d'euros est en cours et doit durer 10 ans pour aboutir à un site sûr, sain et non polluant. L'élargissement de l'accès financier pour le sous-secteur minier artisanal du Libéria est réalisable grâce à la mise en place de cadres réglementaires et institutionnels favorisant l'accès aux services financiers, la promotion des services financiers numériques et la protection des consommateurs, soutient la Banque africaine de développement dans un rapport. La BAD appelle Monrovia à travailler avec les banques et des institutions de microfinance indiquées pour formuler des solutions innovantes et adaptées à la réduction de la pauvreté et au développement du pays. Terminons par le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, qui a affirmé lundi à Alger, où il est en visite officielle, que l'Union européenne souhaite développer son partenariat énergétique avec l'Algérie. Environ 90% des exportations de gaz algérien partent vers l'Europe.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Jean-Roger, bonsoir à tous.
Suite des matchs de la Basketball Africa League saison 3 ce mercredi à Dakar.
Oui, deux matchs au programme. Après leur défaite d'entrée, les Sénégalais de l'AS Douane voudraient se relancer face aux Rwandais du REG. Coup d'envoi 19h30 temps universel. Bien avant, les Nigériens de Kwara Falcons jouent leur survie dans cette conférence à Sahara face aux champions en titre, les Tunisiens de l'US Monastir, qui voudront enchaîner avec une deuxième victoire d'affilée. Hier, le stade malien s'est relancé en venant à bout du Kwara Falcons du Nigeria, 78-74. REG du Rwanda a décroché sa deuxième victoire dans cette saison 3 en dominant Abidjan Basketball Club, 80-73.
Le Maroc se déclare candidat à l'accueil du Mondial 2030.
Le roi Mohamed VI a annoncé hier mardi que son royaume se joint à la candidature de l'Espagne et du Portugal pour l'organisation du Mondial 2030 qui marquera le centenaire de la compétition. Cette annonce laisse penser que l'Ukraine, qui avait dans un premier temps été associée à la candidature de l'Espagne et du Portugal, est évincée du projet. 5 fois candidat malheureux à l'organisation de la compétition en 1994, 1998, 2006, 2010 et 2026, le Maroc espère devenir le second pays du continent après l'Afrique du Sud en 2010 à accueillir l'un des événements les plus importants de la planète. Notre consultant sportif à Casablanca, Amin Birouk, explique les chances de cette candidature commune.
C'est vrai que c'est une opportunité unique pour avoir une candidature qui englobe deux continents, deux confédérations différentes. Les textes ne le permettaient pas auparavant, visiblement il y a plus de souplesse. Et Maroc plus Espagne plus Portugal égale complémentarité entre le Nord et le sud de la Méditerranée. C'est également une opportunité, puisque un des objectifs les plus nobles du sport, c'est la symbiose des cultures, pour que la culture européenne, judéo-chrétienne, puisse également s'imbriquer dans la culture arabo-musulmane, dans la culture africaine. Le Maroc, l'Espagne et le Portugal ne sont séparés que par quelques kilomètres. Il y a 14 kilomètres entre Tanger et Tarifa, donc par rapport au détroit de Gibraltar. Et comme la compétition se déroule à 48 pays, aujourd'hui, la situation ou la solution la plus viable est la co-organisation. D'ailleurs, les adversaires de cette candidature seront au nombre de 4 du côté de l'Amérique latine, dans une candidature commune pour le centenaire Uruguay, pays qui avait organisé la première Coupe du Monde, plus Argentine, Chili et Paraguay. Et il y a de l'autre côté, probablement, une candidature plus hétéroclite qui rassemblera l'Arabie Saoudite, l'Égypte à la Grèce, que le meilleur gagne. Les infrastructures de l'Espagne et du Portugal sont modernes, il y a un savoir-faire. Le Maroc est en train d'acquérir ce savoir-faire et on espère que cette septième candidature sera cette fois-ci la bonne.
Merci Ami.
Page d'espoir VOA Afrique, signé Yacouba Ouedraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Les services de renseignement burundais ont arrêté 5 défenseurs des droits humains le 14 février pour rébellion et atteinte à la sûreté de l'État. Ils ont été ensuite inculpés pour ces mêmes motifs. Des ONG de défense des droits humains exhortent les autorités du Burundi à libérer immédiatement les 5 militants. Dans un communiqué publié mardi, les organisations demandent aussi au gouvernement de cesser d'intimider la société civile. Janvier Bigirimana, avocat burundais et défenseur des droits humains, vit en exil en Europe. Il déploie une répression qui ternit davantage l'image du pays, mais reste convaincu qu'elle ne fera pas taire les défenseurs des droits humains. Maître Bigirimana est joint par Nani Talani.
Depuis 2015, on voit que le régime du CNDD-FDD a mis en place une politique de répression contre les défenseurs des droits humains, contre tous ceux qui osent dénoncer les violations qui sont régulièrement commises par le régime du CNDD-FDD. Ce n'est pas la première fois que des défenseurs ont été traqués. Nous savons que plusieurs défenseurs ont été contraints à l'exil, tandis que d'autres ont été emprisonnés arbitrairement. Nous en avons aussi d'autres qui ont été portés disparus ou assassinés, ce qui veut dire que cette politique de répression à l'endroit des défenseurs des droits humains, c'est une continuité d'une mauvaise pratique de non-tolérance à l'endroit du travail des défenseurs des droits humains qui s'est installée au Burundi.
Des ONG dénoncent l'arrestation de ces activistes et demande aux autorités burundaises de les libérer. Est-ce que vous pensez que cet appel sera entendu?
Je pense qu'un tel appel est d'une grande importance parce que c'est un régime, je dirais, qui perd les pédales parce que nous sommes dans un pays le plus pauvre du monde. Pensons que ce régime a besoin aussi des partenaires internationaux de la communauté internationale. Le fait que des ONG internationales se lèvent pour dénoncer ces abus commis par le pouvoir, nous pensons que c'est une pression nécessaire. Nous avons d'autres cas où des défenseurs ont été libérés parce que la communauté internationale, les activistes, que ce soit locaux ou internationaux, s'étaient élevés pour demander à ce régime de pouvoir cesser la violation contre les défenseurs des droits humains. Le régime en question ne cesse de dire que la paix et la sécurité règnent au Burundi et qu'il y a une amélioration dans le respect des droits humains, mais nous constatons malheureusement qu'il y a des pas en arrière, donc il y a une récurrence des violations, non seulement des droits humains, mais aussi à l'encontre des défenseurs des droits humains.
Cette récurrence des violations des droits que vous mentionnez ne risque-t-elle pas de décourager les défenseurs des droits humains?
On ne peut pas ne pas dénoncer les abus qui sont commis par le régime. Cette répression de plus est une perte de temps. L'essentiel aurait été de corriger les erreurs qui sont commises par le régime en place, notamment cesser les violations et les violences qui sont commises régulièrement sur les citoyens burundais, les défenseurs des droits humains. Sinon, cette répression ne va pas faire taire les défenseurs des droits humains qui restent engagés malgré ce contexte hostile. Autre conséquence, c'est que cela ternit davantage l'image de l'État burundais, mais aussi l'image de son gouvernement, parce que les discours qui sont tenus par les autorités officielles, notamment le chef de l'État, ne riment pas avec ce qu'on voit sur le terrain. Et ce comportement du gouvernement va encore une fois priver la chance au Burundi de pouvoir décoller au niveau de sa situation socio-économique qui est aujourd'hui très critique.
C'était Janvier Bigirimana, avocat et défenseur burundais des droits humains, joint en Europe.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Bujumbura sur 94.9 FM au Burundi.
La phase de poule du Mondial 2026, le premier à 48 équipes, se disputera en 12 groupes de 4 sélections. L'annonce a été faite mardi à Kigali au Rwanda par le Conseil de la FIFA. Cette décision fera bondir le nombre de rencontres du tournoi de 64 à 104. Dès l'édition partagée entre les États-Unis, le Mexique et le Canada. Les deux premiers de chaque groupe ainsi que les huit meilleurs troisièmes accéderont au 16e de finale. Pour en parler, Yacouba Ouedraogo a joué à Casablanca, au Maroc, Amine Birou, consultant sportif.
On penchait au tout début vers une formule de 16 groupes de 3 équipes qui auraient gardé le même timing par rapport aux précédentes Coupes du Monde à 32 équipes. Mais visiblement, la FIFA a été alléchée, attirée, séduite par ce qui s'est passé au Qatar avec des différents rebondissements lors des dernières journées avec des matchs qui se disputent à la même heure. Et visiblement, sa task force a voulu implémenter la compétition qui passe à 39 jours, qui est avec augmentation des nombres de matchs, avec un tour supplémentaire pour les 32 équipes qui passeront le cut. C'est également les sponsors qui vont certainement tirer un maximum de bénéfices en termes de visibilité. C'est les droits télé. C'est une affaire à la fois sportive et commerciale. Et la FIFA a toujours su allier rentabilité sportive et rentabilité commerciale dans la Coupe du Monde depuis l'augmentation du nombre de sélections. On est passé de 16 à 24 en 82, de 24 à 32 en 98 et aujourd'hui on va franchir un cap supplémentaire à l'occasion d'une Coupe du Monde qui sera unique puisqu'elle sera organisée conjointement par 3 pays, à savoir les États-Unis, le Canada et le Mexique.
L'Afrique comptera 9 représentants à ce mondial-là. En quoi elle peut profiter justement de ce nouveau format?
Tout d'abord, augmentation du nombre de participants. On retrouvera entre 9 et 10 sélections sur 54 pays affiliés à la Confédération africaine de football. Donc, visiblement, moins de contraintes en termes de tour de qualification, plus de présence de sélections africaines et proportionnellement, plus de chances de briller.
Gianni Infantino, président de la FIFA, sera certainement réélu demain. Il est le seul candidat en lice. En quoi le mandat d'Infantino a profité au continent?
Le fait d'augmenter au nombre de 48 de sélections, ça a poussé proportionnellement. La FIFA a donné plus de présence au football africain. Les Européennes ont vu leurs représentants augmenter de 13 à 16. Le continent qui a le plus bénéficié de cet élargissement est l'Afrique. Il y a le projet Forward pour aider les fédérations sportives. Il y a visiblement quelques projets qui sont en cours et qui permettront de former des cadres, de permettre au football africain de passer un nouveau cap en termes de gouvernance. Mais il y a aussi beaucoup de points d'interrogation concernant ce qui s'est passé depuis, je dirais, une sorte de tutelle de la Confédération africaine de football à partir de 2019. Il y a visiblement beaucoup de couacs concernant le précédent mandat avec Ahmed Ahmed à la tête de la CAF. Et on n'a toujours pas l'impression que la CAF est sur des bons rails en ce moment. C'est peut-être un des challenges du prochain mandat de Gianni Infantino qui va devoir certainement donner plus de lustre à l'Afrique et surtout plus de rigueur et de sérieux en termes de gestion pour la Confédération africaine de football.
Amine Birou, consultant sportif. Les tensions restent vives entre Washington et Moscou après un incident aérien. Les États-Unis accusent l'aviation russe d'avoir intercepté et percuté un drone américain Reaper au-dessus de la mer Noire, provoquant sa chute, ce que la Russie dément. Pour en parler, Eric Manirakiza a joint ici à Washington Herman Cohen, ancien secrétaire d'État adjoint américain chargé de l'Afrique.
Oh, je crois que ce n'est pas un problème sérieux. Les États-Unis ont envoyé un drone pour voir tout ce qui se passe sur la mer Noire, c'est-à-dire surtout les bateaux qui vont vers la Russie malgré les sanctions. Il y avait un avion de chasse russe qui est allé vers ce drone et il a voulu faire des difficultés pour le drone. Il a envoyé de l'essence, il a envoyé des fumées et finalement, par accident, il a touché le drone qui a fait tomber le drone dans la mer Noire. Il paraît que c'était pas voulu, que c'était tout à fait un accident. Donc, c'est pas un problème sérieux entre les États-Unis et la Russie.
La ligne rouge n'a pas été franchie?
Non, pas du tout. Pas du tout. Nous n'allons pas entrer en combat avec la Russie. Heureusement.
Mais Washington a protesté, a convoqué l'ambassadeur russe ici à Washington et l'ambassadrice des États-Unis à Moscou a adressé un message au ministère des Affaires étrangères. Comment interpréter cette attitude?
Oui, bien sûr. Les États-Unis ont le droit tout à fait d'envoyer un drone sur la mer Noire. C'est un territoire international. Il n'a pas survolé la Russie. Donc, la Russie n'avait pas le droit, au point de vue de la loi internationale, d'embêter le drone. Le fait qu'ils ont fait ça, c'est un acte hostile, n'est-ce pas? C'était pas grave. Mais bien sûr, les États-Unis ont bien protesté. Ils ont fait quelque chose contre un drone qui était tout à fait en règlement avec la loi internationale.
Quelle est l'importance symbolique de cet incident?
L'importance est qu'il y a une tension entre les États-Unis et la Russie et il faut être très prudent. Il ne faut pas faire des choses qui peuvent continuer vers une escalade et les conflits. Donc, c'est très, très important d'être prudent.
Le ministre de la Défense des États-Unis, Lloyd Austin, vient de déclarer que Washington va continuer de faire voler ses appareils et d'opérer partout où le droit international le permet. On est loin de la désescalade.
Oui, c'est vrai, mais quand même, nous avons des intérêts dans la région et il ne faut pas oublier que la Russie est sous sanctions internationales de la part des États-Unis et des partenaires en Europe. Donc, il faut superviser pour voir que ces sanctions sont bien appliquées.
C'était Herman Cohen, ancien diplomate américain. Le président américain Joe Biden a publié hier un décret ordonnant aux agences fédérales de renforcer l'application d'une loi bipartite sur le contrôle des armes à feu qu'il a signée il y a près de 9 mois. Le texte élargit la vérification des antécédents des acheteurs et renforce les règles sur le retrait des armes à feu d'une personne potentiellement dangereuse. Nathalie Barge relate un compte-rendu de la correspondante de la VO à la Maison-Blanche, Patsy Widakuswara.
Il y a à peine 2 mois, un tireur a ouvert le feu dans une salle de danse lors d'une célébration du nouvel an lunaire, tuant 11 personnes et en blessant 9 autres.
Une tragédie qui a transpercé l'âme de cette nation ici à Monterey Park, dans la vallée de San Gabriel, au cœur de la communauté asiatique des États-Unis.
C'est là que Joe Biden a déployé ses derniers efforts pour lutter contre la violence armée, en publiant un décret pour renforcer la loi bipartite sur le contrôle des armes à feu qu'il a signé le 25 juin 2022, élargissant la vérification des antécédents des acheteurs de moins de 21 ans et réprimant le trafic d'armes entre États.
Mon décret ordonne à mon ministre de la Justice de prendre toutes les mesures légales possibles pour nous rapprocher le plus possible de la vérification universelle des antécédents sans nouvelle législation.
Les défenseurs du contrôle des armes à feu ont salué ce décret. Mark Collins, directeur de la politique fédérale de la campagne Brady pour prévenir la violence armée.
Cela concernera la majorité des personnes qui vendent des armes à but lucratif et les forcera à prendre cette décision, qu'elles veuillent ou non continuer à vendre des armes à feu ou qu'elles veuillent ou non devenir revendeurs agréés et vendre des armes avec vérification des antécédents.
La loi sur les communautés plus sûres adoptée l'an dernier réserve un financement fédéral aux États pour créer et mettre en œuvre des lois préventives qui empêchent les agresseurs domestiques condamnés d'acheter des armes à feu et consacrent davantage de moyens au programme d'intervention contre la violence et aux services de santé mentale. Avec de faibles perspectives de législation sur les armes à feu à la Chambre des représentants, contrôlée par les Républicains, les militants veulent que le président Biden prenne d'autres mesures exécutives, notamment en nommant une personne ressource pour coordonner les réponses fédérales à la violence armée et en ordonnant à l'agence chargée de superviser les licences d'armes à feu de révoquer celles des récidivistes. Les États-Unis ont des lois faibles sur les armes à feu par rapport à d'autres pays industrialisés et possèdent le plus d'armes à feu au monde, soit environ 390 millions, ce qui représente plus d'une arme par habitant.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Dion à ce micro, à la mise en onde Joselle Morissin. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.